Il y aura également la deuxième édition du Festival Gonfi. C'est au printemps, avec notamment Que ma joie demeure, hein, qu'on avait pu suivre cet été au Festival d'Avignon. C'est une adaptation du roman de Jean Giono, où il y a effectivement des descriptions. C'est plus que pantagruélique, c'est carrément délirant. C'est une sorte de bacchanale charnelle nutritive assez extraordinaire. Comment vous l'avez articulé, cette deuxième édition du Festival Confi?
C'est toujours un sacrifice que de choisir pour le Festival Confi. Tant à la fois le territoire du Vaucluse offre une richesse sur le plan de l'agriculture et puis des traditions culinaires, et tant aujourd'hui il y a de plus en plus d'artistes qui réfléchissent à cette question-là et qui ont des propositions. Donc la ligne artistique de Confi, elle est quand même assez claire, c'est-à-dire qu'on propose des spectacles dont le fait culinaire est le sujet, tout en étant aussi la forme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver dans Confi des spectacles qui parleraient de cuisine sans proposer d'en manger, ni des spectacles qui proposeraient, on va dire, une situation, par exemple, de banquet ou de cabaret, mais dont le sujet du spectacle ne serait pas la question alimentaire. Voilà. Donc, sur la version de Que ma joie demeure, par exemple, qui est une randonnée spectacle, donc qui effectivement parle globalement de la paysannerie, hein, de l'agriculture, avec effectivement des scènes.
Ça parle aussi de la culture provençale, puisque ça se passe dans les Alpes de Haute-Provence.
Tout à fait. Et d'ailleurs, on va le tenir, nous, à Mérindol, sur la commune de Mérindol, donc dans le parc naturel régional du Luberon, qui est d'ailleurs partenaire sur ce projet. Et on a donc pour cette édition particulière à la Garance, commandé au chef cuisinier Emmanuel Perraudin, avec qui on a déjà eu l'immense plaisir de travailler, un pique-nique. Voilà. Donc on va ainsi créer cette situation où les participantes randonneurs vont déguster un pique-nique concocté à partir du paysage, hein, du territoire dans lequel ils seront en train de randonner, et bien sûr du texte de Jean Giono. Il y aura d'ailleurs quelques surprises, comme un élixir de livres de Jean Giono, et différentes comme ça, surprises réservées par Emmanuel Perraudin. Donc on est bien dans cette dimension-là, immersive et 360, où je suis et j'entends ce que je mange.
Au moment d'un repas, d'abord, on se réunit. Et puis, c'est au moment du repas qu'on peut parler d'un petit peu de tout.
Mais c'est sûr que le repas est souvent perçu comme ça, de loin, comme un cumul, on va dire, de choses à manger. Mais le repas est avant tout une situation sociale. Mmh. C'est avant tout une situation d'interaction. Ce que permet la forme artistico-culinaire, c'est à la fois une interaction renouvelée entre les artistes et les publics. Et ce faisant, de lutter un peu contre cette image de l'artiste un peu distant, un peu hors du monde. Non, pas du tout. L'artiste mange le même pain. Et d'ailleurs, c'est de là que vient l'expression « copain ». Hein. On va partager la même chose, et ce faisant, ingérant le même aliment, alors à un endroit nous allons nous ressembler, quoi. Donc une situation relationnelle renouvelée entre artistes et public, et puis une situation relationnelle renouvelée entre les publics aussi, puisque c'est vrai que aujourd'hui peut-être que les théâtres ne sont pas suffisamment des endroits de rencontre, comme peuvent l'être par exemple les bars et les cafés, que peut-être c'était quelque chose qui était plus présent historiquement, mais aujourd'hui finalement c'est peut-être pas là où on va faire des nouvelles rencontres. Et que dans une situation qui est celle du repas, ou en tout cas de la dégustation, alors on a ce que suppose la rencontre, c'est-à-dire du temps, de l'espace et une expérience partagée. Voilà, on a le sujet de discussion, l'endroit de la discussion et le temps de la discussion, et donc on peut se rencontrer. Et c'est là que effectivement ça me paraît intéressant.
Il y a également de la musique, notamment une soirée avec les Égarés. Alors j'ai envie de dire, quels Égarés, hein ?
Eh bien, c'est vrai qu'on est absolument ravis. Il se trouve que j'ai passé 4 années de ma vie au Mali. Je travaillais là-bas pour l'Institut français. Donc, Balaké Sissoko, moi, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup suivi, accompagné, comme les grands joueurs de kora. La plupart sont d'origine malienne. Et d'ailleurs, c'est depuis le Mali que j'avais suivi la sortie de Chamber Music, son premier album en duo avec Vincent Segal, cet immense violoncelliste français. Et donc là, on passe de la forme duo à la forme quatuor, avec ce format donc jazz, musique du monde, même si je sais que le terme est parfois un peu contesté. Et on aura une magnifique soirée le vendredi 15 mars, si je ne me trompe pas. Autour de ça, c'est un très très beau concert qui s'annonce et qui nous permet d'ailleurs à nouveau une collaboration avec cette fois les Sud à Arles, qui ont eu le plaisir d'accueillir ce même concert en été, en juillet dernier.
Qu'est-ce que vous auriez à lui demander, quelles seraient vos requêtes vis-à-vis d'un nouveau ou d'une nouvelle ministre de la Culture ?
C'est une très bonne question. Je crois que notre ministre fait son maximum dans la politique gouvernementale, dans les contraintes financières qui sont aujourd'hui celles proposées. Maintenant, évidemment, il faut créer des espaces de dialogue, d'échange, de prise en compte de ce qui peut se passer, notamment pour les structures culturelles, dont beaucoup sont en situation financière compliquée. Et au-delà des structures culturelles, évidemment, il y a cette... Quand les structures culturelles sont en situation financière compliquée, elles vont malheureusement devoir être amenées à faire des choix, et ces choix se font souvent au détriment de la création artistique. C'est-à-dire que les structures continuent à diffuser des spectacles, mais peuvent moins prendre des risques en finançant les artistes et ce faisant en leur permettant à eux. C'est cet effet domino qui est évidemment préjudiciable. Il est moins visible dans un instant T, mais à long terme, c'est bien ce qui se passe. Peut-être de veiller à ça, de veiller à ce que notamment les pourcentages de parts en coproduction et en accompagnement à la création des structures labellisées restent à l'endroit où ils doivent être, c'est-à-dire de manière suffisamment importante pour que la vivacité culturelle et intellectuelle de notre pays puisse continuer et se pérenniser.
L'année dernière, on a assisté à un retour des spectateurs vers les salles de spectacle. Et est-ce que ce retour s'est confirmé depuis le mois d'octobre ?
Alors nous, on a pu donc établir des statistiques, hein, et on sait que sur toute l'année 2023, on a un taux de remplissage qui est de 94%. Voilà, donc...
Digne du Festival d'Avignon, ça.
Alors voilà, en tout cas, je sais que ben, moi, évidemment, j'en suis extrêmement heureuse et je crois que toutes les équipes de la Garance qui travaillent d'arrache-pied pour en arriver là, évidemment, peuvent s'en féliciter. C'est toujours une grande joie parce qu'accueillir des artistes et proposer des spectacles, si on n'a pas en face, c'est un mariage. Hein, nous, l'endroit d'un lieu culturel, c'est l'endroit d'une marieuse, hein, c'est-à-dire proposer des artistes, en tout cas des propositions artistiques qui rencontrent un public. Et on passe souvent de ça. Hein, cet artiste a rencontré son public, le public a rencontré telle proposition. Oui, c'est bien d'une rencontre qu'il s'agit. On ne peut pas rencontrer si on n'a personne à rencontrer. La question des publics est évidemment une question prioritaire à la Garance. Et au-delà des 94% de taux de remplissage qui font notre fierté absolue, ce qui nous importe, et ça c'est vraiment quelque chose auquel on tient, c'est la diversité et la grande mixité qu'on peut voir dans la salle de la scène nationale de la Garance et qui se constate tous les jours. Par exemple, on avait, à la suite de la période Covid, un stock de billets solidaires, qui sont des billets offerts à des personnes en situation de grande ou très grande précarité par le biais de relais type Resto du Cœur, et qui sont des billets qui coûtent 3 euros. Pendant la situation donc Covid, il y avait des spectateurs, spectatrices fidèles de la Garance qui n'avaient pas désiré être remboursés de leur place sur des spectacles annulés, et ces non-remboursements s'étaient transformés en billets solidaires. Et par exemple, ce stock de billets solidaires a été écoulé, et on a dû faire un appel à un nouveau billet solidaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on arrive à faire venir effectivement des personnes qui ne vont pas ou trop peu, enfin, c'est même pas qu'elles ne vont pas ou trop peu, c'est qui n'ont pas aujourd'hui accès à leurs droits culturels pour des raisons diverses et variées. Et la raison financière n'est certainement pas la raison principale, hein, mais c'est une des raisons importantes. Et voilà, tout ça pour dire qu'au-delà, évidemment, de la quantité, la diversité du public est bien sûr un indicateur qui nous touche tout autant.